2028, alors que la Commission européenne envisage une croissance comprise entre 0,3 et 0,7% dans la zone euro au premier trimestre. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin cote 421,70 $. Quant au CAC 40, il progresse maintenant de 0,07% à 3851 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Et puis les premiers résultats des courses à Pau, la première course, combinaison gagnante du Quintet Plus, 13, 5, 11, 12 et 15. 14h03 sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Bonjour et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1943-1945, le dernier avatar du fascisme italien, la République de Salo. J'attends la fin de la tragédie. Et étrangement détaché de tout, je ne me sens plus acteur, mais seulement le dernier spectateur. Mussolini, février 1945. D'histoire. Le 29 avril 1945, dans un camion venu du lac de Côme, des partisans italiens jetaient le cadavre de Mussolini sur le pavé de la Piazza Loreto à Milan. À l'endroit même où, 8 mois plus tôt, les fascistes avaient fusillé et exposé devant les Milanais 15 prisonniers politiques, la foule, ivre de vengeance, s'acharna sur les corps de Mussolini et de sa maîtresse Claretta Petacci avant de les pendre par les pieds à la poutre d'un garage. C'était la fin pitoyable de celui qui, pendant 23 ans, avait gouverné l'Italie et l'avait entraîné auprès de Hitler dans une guerre qui devait sceller le destin du fascisme et de celui qui l'avait porté au pouvoir en 1922. Mais depuis plus de 2 ans déjà, le dictateur italien n'exerçait plus qu'un pouvoir virtuel sur son pays et même sur le régime qu'il avait mis en place. Le 25 juillet 1943, quelques jours après le débarquement allié en Sicile, un communiqué laconique annonçait aux Italiens que le roi Victor Emmanuel III avait remplacé Mussolini par le maréchal Badoglio.
Attenzione! Attenzione! Sua maestà il re e imperatore.
Sa Majesté, le roi et empereur, a accepté la démission de la charge de chef de gouvernement, premier ministre et secrétaire d'État, présenté par son Excellence Benito Mussolini.
Presentate da sua eccellenza il cavaliere Benito Mussolini. E ha nominato capo del governo.
E ha nommé chef du gouvernement, premier ministre et secrétaire d'État, son Excellence maréchal d'Italie, Pietro Badoglio.
Maresciallo d'Italia. Pietro Badoglio.
C'est fini pour les bâtards, comme c'est fini pour Musso. On a mis en plein dans le mille, en Sicile. Pour toute l'Europe, c'est une fête, la fin de ce sacripant. En attendant la défaite, pour les Allemands, pour les Allemands.
Pierre Milza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le fascisme italien et d'une biographie passionnante de Mussolini. Mussolini, donc, en 1943, on vient de l'entendre, quittait le pouvoir. Dans l'archive du 25 juillet 1943, que l'on vient d'entendre, le speaker italien parlait d'une démission. En réalité, Mussolini avait été chassé du pouvoir par le roi, mais aussi, ce qui peut surprendre, par les plus hauts responsables de son propre parti.
Oui, tout à fait. La veille au soir, la veille de sa démission, enfin encore qu'il était obligé de la donner, il a été mis en minorité dans le Grand Conseil du fascisme par un ordre du jour signé par Grandi et par quelques autres hiérarques fascistes pour l'obliger en quelque sorte à aller voir le roi le lendemain et à être remplacé par un autre premier ministre. Curieux que ce régime de dictature se soit ainsi écroulé en 24 heures.
Enfin, il ne va pas s'écrouler totalement, on va le voir avec vous, Pierre Milza. Parmi d'ailleurs les traîtres, comme on les a appelés, il y avait le propre gendre de Mussolini, Ciano, hein, qui a demandé le départ de son beau-père. Alors cela dans un contexte, il faut le rappeler aussi, très particulier, de la guerre bien sûr, et après de très nombreuses défaites, surtout le débarquement allié en Sicile qui s'est passé quelques jours avant le 25 juillet 43.
Voilà, le débarquement en Sicile avance assez rapide finalement des Anglo-Américains et puis bientôt un autre débarquement dans la péninsule.
Alors il est destitué, il va être immédiatement emprisonné, hein, il faut le rappeler. Alors vous l'écrivez dans votre livre, il va aller dans plusieurs prisons, je crois à l'île Ponza, en Sardaigne, à la Magdalena au nord, et puis surtout au Grand Sasso dans les Abruzzes, dans un endroit totalement inaccessible a priori.
C'est ça, une station de ski, mais à peu près inaccessible en effet, et où il va rester quelque temps, à peine quelques semaines d'ailleurs, en attendant la signature de l'armistice par le nouveau gouvernement et sa libération par les parachutistes allemands.
Alors le nouveau gouvernement, c'est effectivement le maréchal Badoglio qui négocie avec les alliés. On annonce cet armistice aux Italiens le 8 septembre 1943, ce qui provoque deux événements importants à quelques jours d'intervalle. D'une part, l'invasion par les Allemands de la moitié nord de l'Italie et l'évasion spectaculaire de Mussolini, libéré par un commando SS, de nouvelles qui font bien sûr le bonheur de la propagande allemande et de celle de la radio de Vichy.
Par son intervention éclair, la Wehrmacht a rendu caduques les conditions de la capitulation signée par Badoglio. De nombreuses villes italiennes sont occupées par les troupes allemandes.
Un geste de gloire et de vengeance a déchiré le ciel. Le chef de la troisième Allemagne a sauvé le chef de la troisième Italie. Une expédition de parachutistes et de braves, mitraillettes au poing, est descendue dans le village maudit. Mussolini est libre.
Alors ce que l'on vient d'entendre, le ton enthousiaste de ce speaker, on s'en doute, vous vous en doutez, Pierre Milza, c'est évidemment la radio de Vichy, de la collaboration, qui se réjouit de cette libération de Mussolini, il faut le dire, dans des conditions absolument rocambolesques, il faut le rappeler,
Pierre Milza. Oui, tout à fait, deux commandos, un qui arrive par le bas de la montagne, et un surtout qui arrive par le ciel, avec des planeurs. Un groupe de parachutistes qui descend, qui fonce vers l'hôtel, qui neutralise assez facilement, je veux dire, les gardes qui avaient ordre d'ailleurs d'abattre Mussolini en cas d'évasion. Et en faisant ça, car c'est Hitler qui a donné l'ordre à Scorzoni.
Scorzoni, c'était le capitaine de ce commando, mais un type assez, un baroudeur assez étonnant.
Tout à fait. Un baroudeur qui avait d'ailleurs essayé déjà une première fois de le libérer dans l'île de la Maddalena. Et en faisant ça, Hitler ne libère pas seulement Mussolini, mais il lui sauve la vie. Car il était prévu dans les conditions d'armistice dont vous venez de parler, que les Italiens devraient livrer Mussolini aux Alliés. Et Mussolini a eu, qui pensait que les Américains lui faire le tour ensuite de l'Italie libérée derrière les grilles dans une cage, avait décidé de se suicider s'il devait être remis aux Alliés.
Enfin, il a sauvé la vie pour pas longtemps, on va
pas
le voir.
Pas pour très longtemps, 18 mois quand même.
Il est aussitôt, Mussolini, envoyé en avion en Allemagne, où il retrouve sa femme, Rachel, sa fille, et chose étrange aussi, son gendre, le mari de sa fille, Ciano, qui avait provoqué son départ en 25 juillet précédent.
Oui, alors, Ciano et Edda, la fille de Mussolini, avaient programmé de s'enfuir en Espagne. Et avaient demandé aux Allemands, puisque c'était du côté quand même plus allemand, de les laisser partir en Espagne. Alors, on a frété un avion, sauf que l'avion, au lieu de se diriger vers l'Espagne, s'est dirigé vers Munich. Et à partir de ce moment-là, Ciano est prisonnier des Allemands, en quelque sorte.
Alors il y a donc cette famille qui se retrouve, cette famille on sans doute assez déchirée, et puis alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il voit dans son quartier général de Rastenburg? Il rencontre Hitler. Hitler, il faut le rappeler, Pierre Milza, qui n'a pas libéré Mussolini simplement par amitié ou par affinité politique.
Alors les Allemands étaient très divisés, il y avait des gens comme Goebbels qui ne voulaient plus entendre parler de Mussolini. Bon, après tout, les Italiens ont trahi, on n'entend plus parler. Les gens de l'état-major disaient, si on n'a pas l'Italie à nos côtés, si on n'a pas les fascistes à nos côtés, on est obligé d'avoir beaucoup plus de troupes dans cette Italie parce qu'on aura du mal à maintenir l'ordre. Finalement, Hitler s'est rallié à cette position, donc pour lui, il est plus facile, c'est un peu la politique qu'il a menée dans toute l'Europe, de maintenir les choses avec un dictateur fasciste qu'avec un Gauleiter, et par conséquent, il va pousser, obliger Mussolini à reprendre le pouvoir.
Oui, vous dites obligé parce que en vous lisant aussi, on se rend compte que Mussolini, au fond, bah, après le 25 juillet, il en a un peu marre. Il est rangé des voitures, il a plus du tout envie du pouvoir, ça l'intéresse plus.
Ah, il veut plus y aller. Il veut aller dans sa villa d'été de Rocca delle Caminate, près de Forlì, dans sa région d'origine, et non pas continuer le combat. Il dit d'ailleurs à Hitler, moi, je veux plus entendre parler de fascisme. Le fascisme m'a trahi. Vous allez prendre la direction d'un État fasciste. Surtout pas ce mot-là. Les fascistes m'ont trahi. Non, non, moi, je veux, en gros, je vais arrêter. Et Hitler, à ce moment-là, le menace en disant, si on n'avait pas pu vous libérer, on aurait détruit Gênes, Milan, Turin et d'autres villes italiennes. Si vous n'acceptez pas ce qu'on vous demande de faire, c'est de prendre la tête d'un État fasciste, à ce moment-là, je mets mes projets à exécution, je rase la moitié des villes italiennes.
Et Mussolini, évidemment, accepte de créer un...
Attention, il va, lui, dans les plaidoyers pro-domo, notamment, il y a toute une série d'interviews avec un ancien journaliste socialiste, Silvestri, dans lequel il met en avant la thèse du bouclier. Mais il a aussi quand même une revanche à prendre avec ceux qui l'ont trahi un peu, ces deux éléments. Et puis il a cru jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, que Hitler allait avoir à sa disposition ces fameuses armes nouvelles, ouais, terrifiantes, disait Hitler, qui sont pas arrivés à temps.
Donc il va mettre en place un gouvernement fantoche, on s'en doute, totalement inféodé aux Allemands. Et c'est d'ailleurs de Munich que le 18 septembre 1943, Mussolini s'adresse à la radio aux Italiens pour leur exposer le programme du nouveau régime qu'il va mettre en place en Italie du Nord.
Nos postulats sont les suivants. Premièrement, reprendre les armes aux côtés de l'Allemagne, du Japon et de nos alliés. Deuxièmement, préparer sans plus attendre la réorganisation de nos forces armées autour des formations de la milice. Troisièmement, éliminer les traîtres, en particulier ceux qui, jusqu'à 21h30, le 25 juillet, militaient dans les rangs fascistes et qui sont passés à l'ennemi. Quatrièmement, anéantir les plutocraties parasitaires et faire du travail le sujet de l'économie et la base indestructible de l'État.
Et c'était le programme de Mussolini, du nouveau régime qu'il va mettre en place en Italie du Nord à la demande de Hitler, ce qu'il va appeler la République sociale, évidemment, il n'y a plus de monarchie, hein, puisque le roi a pactisé avec les alliés, et puis qu'on va rappeler aussi la République de Salo, parce que Mussolini va s'installer dans une petite ville d'Italie du Nord, au bord du lac de Garde, à Salo, S-A-L-O, hein, il faut préciser, et avec un programme, on vient de l'entendre, commençons par la fin, assez surprenant parce que il est très anticapitaliste. Ça peut paraître surprenant quand même pour un homme
juste
qui est arrivé au pouvoir.
Juste un mot pour la République de Salo, parce que le gouvernement va s'y installer. Mais lui n'est pas à Salo, il est à côté, à Gargnano. On pourrait dire aussi la République de Gargnano. Alors effectivement, il va y avoir un congrès du nouveau parti fasciste républicain, qui s'appelle maintenant Parti fasciste républicain, dirigé par les plus durs du régime, Farinacci, Pavolini. Et ils vont d'ailleurs, à la demande de Mussolini, publier un manifeste, un programme, qui est un programme gauchiste. Hein, qui est un programme gauchiste et qui, notamment, est un programme extrêmement anti-bourgeois. Mussolini, la bourgeoisie m'a trahi, les industriels m'ont trahi, donc je retourne au socialisme. C'est un programme socialiste, entre guillemets, et parmi les mesures qui sont annoncées, il y a quand même la nationalisation de l'industrie. Ouais. Ce qui est la socialisation.
Alors que les industriels avaient été accédés au pouvoir.
Et je crois qu'il
il y croit vraiment.
Ouais.
Enfin, il aurait fallu pour ça que...
Il y croit vraiment.
Ouais. En tout cas, c'est un socialisme de façade, avec un gouvernement qui lui aussi est un peu un gouvernement fantoche. Il y a un homme, vous venez de le citer, qui est très important, c'est le plus dur de tous sans doute, c'est Alessandro Pavolini. Lui, il est secrétaire du parti, il est presque plus important que Mussolini
il
encore
est,
dans ce nouveau régime.
En plus, il guigne la succession. Alors Pavolini, c'est même un personnage qui vient de Florence, qui au début du régime était un intellectuel du parti, qui doit son ascension dans le parti à Ciano, c'est le grand copain de Ciano, c'est pour ça qu'il devient à un certain moment ministre de Minculpop, de la propagande, et qui à ce moment-là devient le numéro 1, arrive à Rome, rassemble, quelquefois les ministres, on va les chercher entre deux SS, parce que personne ne veut être ministre de cette République, on sait très bien ce qui va leur arriver.
Vous dites qu'il est l'ami de Ciano, c'est lui, Pavolini, qui va demander, entre autres, l'exécution, on l'a entendu dans le programme de Mussolini, il faut exécuter les traîtres, et parmi eux, il y a Ciano, le gendre de Mussolini, que Mussolini va abandonner à un tribunal, et qui va être exécuté en janvier 44, c'est vraiment totalement cornélien, parce qu'il y a sa fillette d'A qui dit, mais non, je veux pas que mon fils soit exécuté.
Alors lui, il est il est très hésitant. Il suit Hitler, c'est-à-dire qu'il y a ordre d'Hitler, et à partir du moment où il s'est mis dans l'orbite d'Hitler, il est dans l'orbite d'Hitler. Dans la famille, lui a en gros pardonné. Hein. Déjà à Munich, quand il a voulu me pardonner, mais il y a quelqu'un qui ne le pardonne pas, c'est Rachel.
La femme de Mussolini.
Il a parlé de Clarita, mais il a aussi une épouse légitime, Rachel, qui elle, avec son... je dirais, c'est un peu son aveuglement de bonne paysanne romagnole, demande, elle a jamais publié Ciano, parce que c'était un espèce de noblio, bon, elle ne l'aimait pas, et elle ira jusqu'au bout, elle le poussera jusqu'au bout.
Alors, Mussolini va fermer les yeux, hein, son gendre va être donc exécuté à Vérone le 11 janvier 44. Autre élément du programme aussi, une force armée. Alors, il y aura une armée officielle commandée par Graziani, mais en fait, il y aura 4 divisions qui vont rester pratiquement tout le temps en Allemagne, à l'exercice. En revanche, il y aura une véritable milice, une force de police, les brigades noires de Pavolini, justement, qui vont se battre non pas contre les alliés, mais contre la résistance italienne, qui à partir de 1943 participe à la libération de l'Italie et prend le contrôle de ses grandes villes.
La population de Rome salue le comité de libération nationale Alta Italia, venu exprimer le désir du pays pour un nouveau gouvernement.
France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, la fin de Mussolini et cette chanson Bella Ciao, la plus célèbre bien sûr de la résistance italienne qui se développe, vous le dites, Pierre Milza, en 43 autour du CLN, le Comité de Libération Nationale, et à partir de cette date et pendant 18 mois, ça va être dans le nord du pays, contrôlé sous le pouvoir théorique de Mussolini et réel de l'armée allemande, ça va être une véritable guerre civile contre la résistance, c'est épouvantable. Et 18 mois, ça a été très long.
Oui, c'est une épouvantable guerre civile, elle fera d'ailleurs pas mal, elle fera beaucoup de morts, hein, avant même la l'épuration. Il y aura beaucoup de morts. Elle oppose en gros des forces à peu près équivalentes, c'est-à-dire en coup de 300 000 hommes de chaque côté. Hein. C'est pas tous les Italiens, hein. C'est pas la prise du palais d'hiver. Hein. C'est un peu le mythe résistentialiste, celui-là. Et du côté de la résistance, où il y a à peu près 150 000, 200 000 combattants, et puis surtout ces combattants qui font beaucoup penser à la milice française, ce qu'on appelait les brigades noires. C'est eux qui accompagnent les SS, quelquefois même d'ailleurs sont en avant des SS et vont faire la chasse aux Italiens, y compris d'ailleurs, il y a ceux qui arrivent d'Allemagne. Les 4 divisions, elles sont finalement rapatriées à l'automne 44.
Mais elles ne se battent pas contre les alliés, c'est du maintien de l'ordre.
Elles vont participer, entre guillemets, au maintien de l'ordre.
Alors c'est d'autant plus atroce, vous le dites d'ailleurs Pierre Milza, que les Allemands y participent activement, c'est même à leur demande que sont faites beaucoup d'exécutions, par exemple celle de la Piazza Loreto à Milan, 15 par partisans qui ont été fusillé, exposé, je crois, par les fascistes. Il y a aussi cet épisode étonnant, avant la libération de Rome, épouvantable, le 24 mars 44, le massacre des fosses ardéatines, 77 juifs destinés à déportation, qui sont fusillés par les SS. Quelle est la responsabilité de Mussolini dans cette affaire et dans les déportations de juifs qui se multiplient?
Alors,
à la fin,
disons, 77 juifs et à peu près 300 au total. Ouais. Hein. Alors, les responsabilités dans les fosses ardéatines sont absolument inexistantes. De même que dans les oradours italiens comme Marzabotto. Là, ce sont vraiment les SS. Pour le reste, il y a une responsabilité indirecte, non pas dans la volonté d'envoyer les juifs en déportation, mais dans le fond, tout ce qui a été chasse aux ennemis du régime, et en particulier aux résistants. Là, Mussolini était mis au courant jour par jour de la lutte contre les résistants, des exactions qui étaient faites, donc sa responsabilité est totalement engagée dans cette répression. Pour ce qui est des juifs, jusqu'à la première chute du régime, disons qu'il a essayé de freiner face à Hitler qui demandait de plus en plus d'intervention italienne. Après, de ne pas pousser à l'arrestation des juifs.
L'antisémitisme fasciste, en fait, il date de quand? Des débuts, l'antisémitisme dans le fascisme italien.
Alors, dans le fascisme italien, il y a un tout petit noyau antifasciste dès le début. Mussolini, pas du tout. Mussolini, pas du tout, jusqu'en 36-37. Alors, ce serait compliqué de revoir toutes les raisons qu'ils font passer à l'antisémitisme. Disons, pour aller vite, que À partir du moment où il devient l'allié d'Hitler, il suit Hitler, y compris dans ce domaine.
Alors, plus que l'allié, hein, littéralement l'otage, en quelque sorte, il est cloîtré à Salo, surveillé par les SS, et on ne le voit plus, sauf une dernière fois, pour sa dernière apparition et pour son dernier discours en public à Milan, le 16 décembre 1944, 4 mois avant sa mort.
Déjà, on note les signes de la reprise. Ici, surtout dans cette Milan porte-étendard, que l'ennemi a sauvagement touchée sans la faire plier. Camarades, chers camarades milanais, c'est Milan qui doit donner et donnera les hommes, les armes, la volonté et le signal de la revanche.
Et c'était le dernier discours de Mussolini le 16 décembre 1944 à Milan, dans une ville quand même où il semble encore y avoir du monde pour l'applaudir.
Alors on sait que pendant plusieurs jours, il va se balader en voiture décapotable et il est acclamé par les Milanais. Mmh. Alors attention, ça ne veut pas dire que les Italiens sont des girouettes et que les Milanais savent pas ce qu'ils veulent.
Parce c'est
pas
les mêmes. Même, oui.
C'est pas les mêmes qui sont ce jour-là à applaudir Mussolini puis qui mouillent Piazza Loreto quatre mois plus tard pour empourrisser les corps. Ah là, l'Italie est divisée, elle est divisée en deux. D'où la guerre civile, d'où le côté sauvage. De la guerre civile.
Et lui qui parle encore de revanche alors que nous sommes en décembre 44, c'est pratiquement fini. Hein, il est évident que le destin de la guerre a définitivement basculé du côté des alliés, qu'il n'y a plus d'avenir, évidemment, pour les régimes du type de celui de Mussolini. Et on a l'impression qu'il y croit encore.
Oui, Hitler a réussi. Fait semblant. Hitler, y compris quand tu vas le voir à Rastenburg après l'attentat de juillet, Harry est arrivé 44, à peu près à lui 44 à lui faire croire que les armes terrifiantes allaient ça a commencé à remarquer les V1 et les V2 hein et que peut-être on va arriver et jusqu'au dernier moment il pense que peut-être on va arriver à retourner la situation.
Alors ça dure pas longtemps bien sûr, le 16 avril les alliés lancent une dernière offensive en Italie à partir de Bologne, lui il pense éventuellement pouvoir encore continuer à se battre dans ce qu'on appelait le réduit alpin en Valteline, puis il négocie aussi avec la résistance ce qui peut paraître assez surprenant Pierre Milza, il y a eu des négociations
C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord des négociations entre les Allemands et les Alliés pour la capitulation allemande.
Les Allemands d'Italie, oui.
Et quand il a appris ça, il dit, bon, je suis trahi, y compris par Hitler, je me suis fait rouler. Enfin, alors à ce moment-là, il dit, je ne peux plus négocier avec les Allemands, je ne veux pas négocier avec les Américains qui vont me faire faire le tour de l'Italie dans une cage. Alors, dans le fond, les seuls, et pas non plus avec les communistes, on s'est pas battu.
Oui, parce qu'il y avait comme en France une résistance
communiste. Alors,
les seuls
qui restent, c'est sa culture politique d'origine, les socialistes. Et il va essayer de négocier avec les socialistes, et il va, c'est une chose tout à fait curieuse, chez le cardinal Schuster, archevêque de Milan, et là, il rencontre les dirigeants de la résistance, on essaye de discuter, les dirigeants de la résistance demandent la capitulation sans condition, ils demandent un petit moment de réflexion, et puis finalement, il repart et il décide d'essayer de s'enfuir.
Alors, il essaie de s'enfuir.
Ou la Valteline, ou la Suisse.
On saura
jamais.
Là, il longe vers le nord, en compagnie d'ailleurs des SS, il longe le lac de Côme. Et puis il se déguise même en allemand, hein, c'est pas brillant, et il est reconnu par des partisans et il est exécuté près de Dongo, donc il est exécuté dans des conditions très mystérieuses, dites-vous, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs versions. Vous dites même qu'il y a une version qui dirait qu'au fond, parmi ceux qui ont exécuté Mussolini, il y avait des gens de l'intelligence service parce que Churchill n'avait pas envie que Mussolini révèle éventuellement ce qu'il pouvait savoir de Churchill. C'est quand même très étonnant, Pierre Milza.
Il y a eu beaucoup de fantasmes. De Felice, peu de temps avant de mourir, a dit qu'il allait produire des preuves de cette thèse. Où l'intelligence service, contre d'ailleurs l'avis des Américains, voulait la peau de Mussolini, et non pas un procès de Mussolini. Ce qui reste aujourd'hui le plus crédible, en essayant d'être très prudent sur les modalités, c'est la thèse qu'il a été condamné à mort par le Conseil de la Résistance, et qu'il a été exécuté par un petit commando, dirigé par Walter Audisio, et quelques hommes qui l'ont finalement enlevé à ceux qui l'avaient fait prisonnier, et qui l'ont abattu. Alors là, il y a toute une série de thèses, enfin ça noircit des tonnes de papiers. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été abattu sur ordre de la résistance italienne, incontestablement.
Et ce que l'on retient aussi, et ce que d'ailleurs, beaucoup de photos qui sont connues de ça, c'est ce qui s'est passé le lendemain. On l'amène à Milan, à l'endroit même où des Italiens avaient été exécutés par les fascistes 8 mois plus tôt. Et là, son corps est pendu, celui de sa maîtresse et d'autres responsables fascistes qui ont été exécutés au même endroit.
Véritable scène de catharsis. Hein, c'est-à-dire que celui qu'on a tant aimé, parce qu'il y a quand même eu un moment où il y a eu un fort consensus, il nous a trahis, il nous a amené la famine, les bombardements, l'occupation, la trahison, tout ce qu'on veut. Et à ce moment-là, ce qui a été amour devient haine. Et d'où cette scène cannibalesque, peut-on dire, de la Piazza Loreto.
Le 29 avril, quelques heures avant que son allié Hitler se suicide dans son bunker. Mais alors, contrairement à Hitler, c'est assez étonnant quand même quand on y pense, Pierre Milza, parce qu'on n'imagine pas un tombeau de Hitler, il y a une tombe de Mussolini. Hein. Alors évidemment, c'était un lieu de pèlerinage, on suppose, pour les néofascistes. Mais c'est quand même curieux, cette tombe. On n'imagine pas une tombe de Hitler.
On avait le corps. On l'a même autopsié 3 fois. On a pu comme ça démontrer qu'il n'avait pas le cancer à l'estomac qu'on croyait qu'il avait. Ensuite, il a été enlevé par les néofascistes, caché pendant des années, récupéré par les démocrates chrétiens, notamment par l'Église, et finalement ramené dans son lieu de naissance où vous avez dans le cimetière de Predappio en Romagne,
là où
à 20 km de Farlie, une crypte avec la famille Mussolini. Oui.
Et est-ce que c'est pas justement un lieu de pèlerinage pour des néofascistes?
Ce le fut, ça l'est beaucoup moins.
Qu'est-ce que ça représente pour un Italien aujourd'hui, Mussolini, pour un jeune Italien?
Pour un Italien resté d'extrême droite, ça représente un... Bon, il faudrait faire le bilan du régime, hein, une période de grandeur, etc. Pour la masse des Italiens, ça représente surtout beaucoup de malheur.
Oui.
Beaucoup de malheur, la guerre, les bombardements, les famines, ça a beaucoup de malheur.
Et puis la guerre civile, et puis effectivement un régime quand même
non, très autoritaire. Il y a quelque chose. On peut pardonner un certain nombre de choses parce que d'autres en ont fait. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas pardonner, c'est l'alliance avec Hitler, c'est la complicité avec la Shoah. Ouais. Ça, c'est indéniable.
Et le totalitarisme, évidemment. Merci Pierre Milza. Je rappelle que vous avez préfacé une histoire illustrée du fascisme, un livre de Francesca Tacchi qui vient de paraître aux éditions Place des Victoires et dans lequel on retrouve un chapitre consacré à la République de Salo dont nous avons parlé avec vous. Vous avez également écrit une biographie passionnante de Mussolini, publiée en 99 chez Fayard, ainsi que plus récemment un Napoléon III, un livre publié chez Perrin et dont vous étiez venu d'ailleurs nous parler l'an dernier, Pierre Milza, un livre à lire aussi, comme toutes vos biographies qui sont vraiment excellentes. À lire également l'histoire de l'Italie de 1943 à nos jours, de Frédéric Attal, paru chez Armand Collin. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. Oui, il y a également un autre livre, Une guerre civile, essai historique sur l'éthique de la résistance italienne, un livre de Claudio Padovone, paru au Seuil, collection L'Univers historique. C'était 2000 ans d'histoire, merci à tous ceux qui sont derrière la vitre, Alain Armstrong, Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Claire Tesser et Sandra Escamez, et à la réalisatrice Anne Comité.